Bonjour et bienvenue sur l'Hecta Radio.
Bonjour et bienvenue sur l'Hecta Radio. Aujourd'hui, la face cachée des GT va aborder ces quatre actualités qui sont les Jeux Paralympiques, l'affaire du Gard, l'élection de Vladimir Poutine et la guerre en Syrie. Ces actualités s'inscrivent dans le thème de la semaine, l'autre et moi. Ce thème qui nous permet d'ouvrir les yeux sur le monde, sortir de notre confort, se mettre à la place des autres n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, la face cachée des GT va vous en donner l'occasion.
Et pour commencer, allons faire un tour à Pyeongchang où les JO Paralympiques se sont achevés. L'occasion de parler de l'antisport. Enfin, donnons la parole à Thomas et à Julie.
Les Jeux Paralympiques de Pyeongchang ont débuté le 9 mars et se sont terminés le 18 mars 2018. L'équipe de France a terminé 4e mondial avec 20 médailles, dont 7 en or, 8 médailles en argent et 5 en bronze, ce qui représente 8 de plus qu'aux Jeux Paralympiques précédents. L'équipe de France a donc amélioré sa performance par rapport aux Jeux de Sochi. Cette équipe est composée de 12 athlètes accompagnés de 3 guides. Parmi ces 12 athlètes, 4 ont particulièrement brillé. Benjamin Davier, il est le plus titré, il a remporté 5 médailles dont 3 en or et 2 en argent en catégorie assis. Cet athlète a eu un accident de mobylette, ce qui a provoqué une paralysie des jambes. Arthur Bochet a remporté 4 médailles d'argent en catégorie debout alors qu'il est atteint d'une maladie génétique qui provoque des douleurs aux jambes, ce qui l'empêche de courir.
Frédéric François, qui participait à ses derniers Jeux paralympiques, a récolté 2 médailles de bronze et une médaille d'argent en ski alpin et slalom assis. Marie Bochet, qui est née avec un avant-bras atrophié, a clos ses Jeux en beauté. Elle a gagné 4 médailles d'or dans les catégories descente, super G, slalom géant et slalom. Cela lui fait en tout 8 médailles d'or gagnées lors des Jeux paralympiques à Sochi et Pyeongchang. Hormis ce palmarès, nous avons peu entendu parler des Jeux paralympiques, que ce soit dans les journaux ou dans les journaux télévisés. Pourtant, les athlètes handicapés ont plus de mérite que les participants des Jeux olympiques, car ils nous montrent que même avec un handicap, nous pouvons nous surpasser. C'est pour cela qu'ils mériteraient que l'on parle plus d'eux.
Allons faire un tour dans le sud de la France pour parler d'une aberration. L'esclavage moderne, et plus précisément de l'affaire du Gard. Nous allons donner la parole à Alizée.
Fait divers, l'esclavage est-il toujours présent en France en 2018 ? Les gendarmes du Gard, assistés de ceux de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, ont découvert des faits inattendus après 5 mois d'enquête acharnée. Il s'agit de cambriolages faits par des mineurs, mais avec une particularité. En effet, les cambrioleurs, ou plutôt les cambrioleuses, étaient des jeunes filles d'origine serbe âgées de 16 à 12 ans. Disons-le ouvertement, ces jeunes filles ont été vendues par leur famille à des mafieux serbes et à des prix exorbitants allant de 40 000 à 80 000 euros. On peut donc parler d'esclavage. Ce qui est scandaleux aussi, qu'elles ont été conditionnées au vol. Avec leur effectif d'environ 1500 cambriolages en 6 mois, leur butin s'élève à 6,5 kg d'or, dont 2,5 kg de bijoux, 1500 euros de montres de luxe. Toutes les 2 semaines, le butin était acheminé en Belgique par les patriarches. L'enquête a conduit à l'arrestation du chef présumé du réseau en région parisienne. Dans le sud, une descente a été effectuée par les gendarmes appuyés par les forces du GIGN. En tout, 20 membres du réseau ont été arrêtés. Après ces faits bouleversants, hallucinants, aberrants et même révoltants, cela est inadmissible que l'esclavage en 2018 en France ait encore lieu. 169 ans après l'abolition officielle de l'esclavage, cela existe toujours. L'occasion de réfléchir sur le statut des hommes dans notre société. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ?
Et maintenant, parlons des élections présidentielles russes. Pas si démocratiques que ça. Donnons la parole à Kylian.
L'élection présidentielle russe a eu lieu les 17 et 18 mars à Moscou. Sans surprise, c'est Vladimir Poutine qui a été élu à l'âge de 65 ans, pour la 4e fois consécutive. Dès le premier tour, les dés étaient malheureusement jetés. En effet, Poutine a obtenu 56 millions de voix, soit 76,6% des votes en sa faveur, 10% de plus que les élections précédentes. Il a écrasé les 7 autres candidats qui n'ont pas dépassé la barre des 15%. Certaines personnes parlent même des élections les plus sales. Comment a-t-il pu être élu avec autant de voix, sans programme économique et social, et n'ayant pas participé au débat électoral ? Controverses, fraudes et violences le lui ont permis. Des pressions importantes sur les électeurs ont été exercées. Par exemple, un professeur d'anglais de collège, dont le témoignage a été recueilli et diffusé dans Aujourd'hui en France, affirme que Poutine les a poussés aux urnes comme un troupeau. Les menaces sont utilisées pour les obliger à voter. Des entreprises publiques obligent leurs employés à voter pour Poutine. De plus, pour inciter les électeurs à surmonter le sentiment dominant, des kermesses ont été mises en place à proximité des bureaux de vote et des médailles ont été remises aux votants. Malgré un grand nombre d'observateurs mis en place, il y a eu des bourrages d'urnes, des votants se sont empressés d'y mettre plusieurs bulletins à la suite. Cependant, beaucoup d'électeurs sont convaincus et font confiance à Poutine car ils considèrent qu'il est digne d'être au pouvoir et prétend redonner de la fierté au pays. Certains disent que le jour de son élection est une fête, pas si démocratique que ça.
Et si nous rêvions de paix pour la Syrie et pour Mohamed, cet enfant de 7 ans, dont Théo et Clotilde vont nous parler.
Le week-end dernier, dans différents journaux, dont l'Est républicain, des articles étaient consacrés à la guerre en Syrie. Des milliers de civils fuyaient pour échapper à la mort sur deux fronts qui font rage dans ce pays. À Afrin, cette enclave kurde du nord-ouest bombardée par les Turcs, et dans la Ghouta orientale, dernier fief rebelle aux portes de la capitale Damas, bombardé par le régime de Bachar el-Assad. Pour échapper aux pénuries, aux bombes et à la mort, près de 40 000 personnes ont été forcées à l'exode depuis jeudi dans la ville de la Ghouta et 200 000 personnes ont dû quitter la ville d'Afrin. Ces chiffres nous montrent l'inhumanité et l'horreur de cette guerre qui dure depuis 7 ans. Ces conflits ont commencé en mars 2011 durant la période du printemps arabe. Pour donner un exemple concret des séquelles que peut laisser cette terrible guerre, nous allons vous raconter l'histoire d'un très jeune Syrien, Mohamed, qui n'a jamais connu autre chose que la guerre. Son histoire a été publiée par le site Euronews le 15 mars 2018.
Cet enfant de 7 ans, nommé Mohamed, a vécu une histoire tragique qui ne peut laisser aucun auditeur indifférent. Ce jeune garçon avait seulement 2 mois lorsque la guerre en Syrie a éclaté. Sa maison a été bombardée. Dans ce bombardement, il a perdu sa main. Malgré cette situation difficile, Mohamed a survécu, mais à quel prix ? Il a dû se faire amputer la main après avoir reçu un éclat d'obus. Sans doute l'histoire tragique de milliers de personnes, une parmi tant d'autres, me direz-vous. Mais qu'il ne faut pas banaliser. Ce ne sont que violences, traumatismes et cauchemars pour ces populations victimes de la guerre. Cette tragique réalité nous fait réagir, nous donne une leçon de vie pour nous faire comprendre ce qu'est la véritable souffrance, celle que nous ne connaissons pas dans nos pays occidentaux, baignés dans le choix, le confort, l'opulence, le luxe et surtout, nous vivons dans un pays en paix. Mohamed, lui, n'a pas cette chance. Il a connu les bombardements, n'a pas eu l'opportunité de se faire soigner, ce qui aurait pu sauver sa main. L'accès aux soins, une évidence pour nous, est loin de l'être pour eux. C'est même un rêve. L'Agence des refuges estime qu'il y a maintenant plus d'un million d'enfants syriens réfugiés, dont Mohamed et sa famille, qui n'ont jamais connu leur pays en paix.
Merci à tous et à toutes pour votre écoute et bonne journée, en espérant que cela vous fasse réfléchir sur la face cachée des informations.
Lecta Radio,
ici ou là-bas,
c'est la radio du lecteur.
Lecta Radio,
ici ou là-bas,
la radio du lecteur.